saisi et appuyé la protection des droits de l'homme, appuyé les autorités maliennes dans le domaine des réformes politiques et institutionnelles. Alors, de 2013 à 2022, jusqu'en 2023, chaque année, le mandat a été renouvelé, et souvent en fonction des circonstances. Si en 2013, il avait été question des élections présidentielles, cela n'était pas valable en 2014 et 2015, parce que les élections de 2013 étaient les élections présidentielles. Alors, donc, il est aussi nécessaire de comprendre que le mandat a été attribué qui a été attribué à la MINUSMA n'était pas du tout en adéquation avec les défis sécuritaires du Mali. Si on essaie de voir, parce qu'au début, le Mali était frappé par deux crises. La première crise, c'est la rébellion Touareg, le sécessionnisme. La deuxième crise, c'est pratiquement le terrorisme. Alors, si on essaie de voir, pour résoudre la crise de sécessionnisme qui est la rébellion Touareg, il y a eu ce qu'on appelle l'accord issu du processus d'Alger. Ce qui a nécessité à mettre hors d'état de nuit tous les groupes qui prônaient le sécessionnisme. Donc il était question de lutter typiquement et objectivement contre les terroristes. Donc, partant de là, on peut dire que l'ennemi à Abbas était pratiquement les terroristes. Parce que,
pour résumer un tout petit peu vos propos, Monsieur Oula, pour résumer un tout petit peu vos propos, protéger les civils et également protéger les droits de l'homme et notamment lutter contre le terrorisme, c'était quelques-uns des objectifs initiaux de la MINUSMA lors de son déploiement au Mali en 2013. Nous venons d'être rejoints par Dr Koïna Alpha Aladi. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir. Merci beaucoup.
Pour débuter ce débat, on revient notamment sur les objectifs initiaux de la MINUSMA lors de son déploiement en 2013. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? La liaison ne semble pas être très très claire avec Dr Koïna. Monsieur Makosso, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les objectifs, selon vous, quels étaient les objectifs initiaux de la MINUSMA lors de son déploiement en 2013?
Merci Madame Olonon déjà pour cette invitation. Alors, par rapport à ce qu'on entendait tout à l'heure, ce que disait l'intervenant précédent, c'est que les missions étaient plus ou moins claires. Le Mali était en crise, donc la communauté internationale était obligée d'intervenir. Et pour cela déjà, on parlait de la sécurité, les réformes politiques, la sécurité pour les populations civiles déjà, les réformes politiques et d'une manière aussi d'assurer l'interposition entre les djihadistes et je dirais les populations civiles, et aussi être là pour faire en sorte que le Mali puisse reprendre en fait le chemin de l'ordre constitutionnel pour lui permettre de pouvoir mieux gérer son territoire qui était en partition et occupé par une partie notamment dans le nord avec les différentes rébellions et puis le mouvement terroriste qui était. Donc on peut quand même dire aujourd'hui que ces missions étaient plus ou moins définies, on savait ce qu'on venait faire. La seule chose, c'est que nous n'avions pas à ce moment-là une force de combat, mais surtout une force d'interposition par rapport à la situation qui prévalait à cette époque.
Alors, pour revenir maintenant sur le bilan de cette mission, 10 ans après son déploiement, pour certains, c'est un échec certain, mais un bilan mitigé pour d'autres. Ma question est, en quoi le déploiement de la force onusienne a-t-il répondu aux besoins spécifiques de la situation de crise au Mali? Docteur Koïna.
Merci beaucoup. Excusez-moi, en fait, j'ai eu des problèmes de connexion. Effectivement, depuis 2012-2013, en fait, la situation semble très compliquée au Mali et puis dans tous les Sahels. Et donc, avec le déploiement de la MINUSMA, à un moment donné, il y a eu un peu d'une manière, un espoir qui a été un peu manifestée par la population. Malheureusement, après plusieurs années, disons après une décennie, en réalité, la situation semblait être allée de pire en pire. Pour cela, on ne peut pas d'une manière accuser disons seulement l'aménagement de tous ces mots. Certainement, chacun, que ce soit les autorités, que ce soit un peu la population, chacun a un peu à sa part de responsabilité dedans. Mais c'est la chose à dire, c'est que malheureusement, en fait, quand même, l'objectif et puis la mission de l'aménagement n'était pas du tout adéquate un peu à la situation au Mali et puis surtout un peu dans les Sahel, parce qu'en fait, on peut dire en réalité que le virus, c'est un peu, le cancer s'est un peu propagé dans toute la sous-région. Donc, la chose en fait, c'est que peut-être bien qu'on aurait dit penser, c'était un peu d'abord d'écouter un peu non seulement les communautés, mais aussi d'écouter en fait les autorités qui connaissaient un peu les mots de la situation. Mais à un moment donné, il faut dire qu'on écoutait certains experts qui, c'est vrai qu'en fait, ils avaient des connaissances, mais malheureusement, ils n'avaient pas des connaissances du terrain. Donc,
Quand vous parlez de l'aménagement, j'aimerais bien comprendre à qui vous faites allusion quand vous dites on n'a pas écouté.
On parle non seulement de l'aménagement de l'ONU et puis surtout des Occidentaux en fait en réalité, parce que si on essaie de voir les bailleurs de fonds de l'aménagement, on parle des pays occidentaux en tant que tels. Mais c'est juste que ces experts-là, d'une manière le plus souvent aussi, ce sont des Occidentaux qui vivent quand même dans les pays occidentaux et donc qui ont parfois une analyse biaisée de la chose. Donc il fallait un peu faire confiance un peu aux Maliens et puis aux experts de la sous-région qui disaient qu'en fait il fallait vraiment un traitement spécifique pour la question de la question du Mali et d'autres. Et donc en fait c'est ce qui a été vraiment un problème pour l'aménagement, et c'est pour cela que à un moment donné les Maliens se sont dit que bon, vu que la situation ne se règle pas, il faut d'une manière essayer de changer quand même de méthode, parce que la stratégie actuelle ne marche pas du tout.
Monsieur Oula, comment la coopération avec les autorités locales a influencé l'efficacité de l'aménagement? Peut-on parler d'un quelconque impact de la relation avec les autorités maliennes sur l'efficacité même de l'aménagement?
Quand on essaie de voir l'efficacité de l'aménagement n'est pas aujourd'hui, parce que si on essaie de voir les objectifs qui avaient été assignés à l'aménagement n'étaient pas du tout ce que les autorités maliennes voulaient et ce que les communautés qui étaient frappées par le terrorisme voulaient en quelque sorte. Les Maliens voulaient seulement qu'on lutte contre le terrorisme. Et si on essaie de voir dans le mandat de l'aménagement, cette question est restée floue. C'est pour cette raison, chaque fois que les autorités maliennes avaient eu l'occasion de se prononcer sur cette question, elles avaient toujours demandé à ce qu'on donne, mais à ce qu'on dote des mandats robustes à l'aménagement, ce qui n'a pas été fait. Et la communauté internationale est restée à fond face aux cris de détresse de ces communautés en question. Donc, par fini, les communautés se posaient la question, nous voyons des gens, nous voyons des contingents hyper armés, dans des blindés, avec des armes, avec des gilets pare-balles, avec des casques blindés. Mais pourtant, nous nous sommes frappés par les groupes terroristes. Ces gens n'étaient pas frappés par les groupes terroristes, sauf quelques rares fois, ils font quand même objet d'attaques sporadiques de la part des groupes d'armées terroristes. Donc, en quelque sorte, il y avait cette bisbille qui amenait un peu la confiance de la population malienne, qui se demandait pourquoi maintenant, quel serait maintenant l'intérêt de ces gens-là dans notre zone, quand bien même que nous sommes quand même frappés par le terrorisme. Pour rebondir un peu sur la question de mon ami Kouina qui disait qu'il y avait une question d'expertise en question, c'est pas ça. Il y a beaucoup d'experts qui ont travaillé à l'aménagement. Mais le problème, le problème, c'était quoi? C'est que l'aménagement n'était pas du tout prêt à lutter contre le terrorisme. Dans les relations internationales, il y a une doctrine qu'on appelle le réalisme. Il s'agit de confronter les faits avec la réalité. Et ça, c'est indéniable. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'administration n'avait pas des experts qui pouvaient dire à l'administration que aujourd'hui l'approche sécuritaire que l'administration était en train de prôner n'était pas en adéquation avec les défis structurels.
Docteur Monsieur Makosso, une réaction?
Alors, il faut dire une chose, c'est qu'il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte. La mission se retrouvait en fait dans un univers qui était en pleine ébullition et en pleine évolution. Si vous prenez au début du mandat en 2012, la résolution est votée en 2012 et le mandat exécuté en 2013, quand les soldats de la paix arrivent, ils ont plus ou moins la maîtrise de la situation puisque des choses se passent plus ou moins bien. Or, c'était sans compter de l'évolution de la situation politique propre au Mali. Nous avons vu que les relations se sont détériorées au moment où on va avoir la transition militaire. Et à partir de là, on se rend très bien que le courant ne passe plus entre les autorités maliennes et les militaires de l'ONU qui étaient là en ce moment, les casques bleus qui étaient là en ce moment. Mais nous savions déjà qu'au début, quand ils arrivent, ces soldats de la paix, ils sont bien accueillis par les populations. Tout se passe plus ou moins bien. On les voit faire le job qui est le leur, notamment dans cette interposition, et assurer le minimum en termes d'emploi au niveau social. On voit qu'il y a tout ce qui se fait. Sauf que la relation, notamment avec la population, va aussi se détériorer au fil des années. Et là, on arrive jusqu'à le dénouement que nous avons aujourd'hui.
Merci, Monsieur Makosso. On va s'intéresser à la réaction de nos téléspectateurs qui se sont prononcés également sur la fin de cette mission onusienne au Mali. Il y a Omar Selin Kofi depuis Abidjan nous dit que le départ du Mali des casques bleus de l'aménagement est une véritable bouffée d'oxygène pour le peuple malien. En effet, selon lui, la plupart des missions onusiennes n'ont jamais pu stabiliser définitivement les pays en crise. Ces missions ont besoin d'être réformées pour plus d'efficacité. Arcéduc Théodore de N'Djamena au Tchad, l'impact de la présence onusienne sur les situations sécuritaires et politiques au Mali a été négatif vu le manque de concordance entre les missions sur le terrain et le besoin sécuritaire des Maliens face aux attaques des différents groupes armés. Leur départ était un ouf de soulagement, car juste après leur départ, Kidal a été repris par les FAMA. Charles Baziman de Ouagadougou nous dit que le départ du Mali de la force onusienne montre encore une fois de plus son incapacité à résoudre les problèmes. Il était temps que ces forces militaires quittent le Mali pour leur propre bien. Et pour conclure, il est temps que l'ONU et surtout la communauté internationale revoient leur manière de traiter les crise, il y a trop d'hypocrisie selon lui. Vous suivez Washington Forum sur VOA Afrique. On se retrouve juste après la pause.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
De la MINUSMAN, la mission onusienne qui a pris fin avec le retrait des derniers soldats après 10 ans de déploiement. Avec nos invités, Paul Oula, analyste sécuritaire et politique, qui nous rejoint depuis Bamako, Sir Makosso, consultant géopolitique, qui nous rejoint de Paris, et Koina Alpha Aladi, géopolitologue et expert des groupes extrémistes au Sahel. Il nous rejoint également de Bamako. Alors, avec la fin de la MINUSMAN et avant cela le départ de la force Barkhane, désormais, quel partenaire pour le Mali pour faire face aux défis sécuritaires? Docteur Koïna.
Alors, aujourd'hui, sans doute, on voit que le partenaire russe est privilégié par rapport aux autres partenaires. Ce qui est vraiment évident, en fait, c'est qu'on voit que déjà dans le Sahel, le partenariat a changé. Mais pourquoi, en fait,
cela serait-il évident ? J'aimerais comprendre.
C'est sûr qu'en fait, si on essaie de voir un peu les différentes missions diplomatiques, les déplacements des chefs d'État du Sahel, en Russie, c'est que déjà on voit un peu que ce partenariat est quand même en marche. Et puis surtout, en fait, en ce qui concerne un peu ces partenariats, on peut pas dire qu'en réalité c'est un partenariat nouveau en tant que tel, parce que quand même pour ce qui concerne l'armement militaire, ça, pour le Mali, pour le cas du Mali, ça a pratiquement toujours été le cas. C'est vrai qu'à un moment donné, quand même, il y avait une sorte de partenariat avec les Occidentaux, mais quand même les militaires maliens, la majorité de l'hiérarchie un peu ont été formés en Russie. Et c'est pour cela qu'en fait, c'est que ça a été vraiment, le contact a été vraiment très facile. Mais c'est là, en fait, c'est vrai que quand on cause avec, en fait, on échange un peu avec certains chefs militaires qui ont eu un peu des expériences en Occident, et ils disent en fait en réalité que ce serait quand même bénéfique pour les Maliens de ne pas fermer la porte à d'autres partenaires occidentaux qui veulent venir. Et c'est là un peu c'est la même chose, en fait, c'est le même message qui part du côté des dirigeants, mais c'est juste que dans les actes, on voit qu'en réalité, on a tendance un tout petit peu à privilégier un peu le partenaire avec les Russes.
Monsieur Oulard, quel partenaire désormais pour le Mali ? Cette semaine, on a entendu énormément de commentaires. Certains faisaient notamment allusion à la nouvelle alliance formée avec le Niger, le Burkina Faso, l'alliance de l'Iptako Gourmand, pour faire face aux défis sécuritaires au Mali. Selon vous, quel partenaire ?
Le partenariat doit être d'abord endogène, parce que la crise, elle est tout à fait, non seulement elle est endogène, mais la crise, elle est aussi transfrontalière. Il faut privilégier d'abord la coopération transfrontalière. Tous les pays qui sont naturellement frappés par le terrorisme doivent se donner la main pour lutter contre cette nébuleuse. Alors, naturellement, il faut faire de telle sorte que les pays comme le Niger, le Burkina, le Mali et même l'Algérie, la Mauritanie s'ouvrent dans la même trompette pour lutter naturellement contre le terrorisme, parce que ce sont ces pays qui sont quand même frappés par le terrorisme. Mais quand on essaie de voir la position de la Mauritanie et de l'Algérie, sont toujours floues. Leur position reste ambivalente par rapport aux deux autres pays qui viennent de former l'alliance des États du Sahel avec le Mali. Je parle du Burkina et du Niger. Alors, sur la scène internationale, la porte n'est pas fermée au partenariat international, pas du tout. Parce que quand on essaie de voir, aujourd'hui, le Mali est en train de diversifier sa coopération. Ça, c'est indéniable. La coopération, elle est aujourd'hui établie avec le Brésil, avec la Turquie, avec la Chine, avec la Russie. Mais ceux qui ont été mis de côté, je parle des Occidentaux, c'est parce que tout simplement, leur coopération s'est vouée à l'échec pendant les 10 années. Donc, c'est pour cette raison aujourd'hui que nous avons besoin aujourd'hui du concret, c'est-à-dire on a besoin du concret. On a besoin de matériel, on donne de l'argent, on reçoit du matériel. On lutte contre les terroristes. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir au niveau des États du Sahel, c'est qu'aujourd'hui, les États du Sahel veulent prendre à bras le corps leur question de lutte antiterroriste. En dehors de toute ingérence extérieure, ce qui n'était pas le cas par le passé. La crise sahélienne a été internationalisée par le fait que on avait la MINUSMA, on avait le G5 Sahel, on avait quand même une myriade d'organisations internationales, régionales, qui avaient des approches plus ou moins différentes, qui ne vivaient pas du tout avec les défis sécuritaires. Donc aujourd'hui, le partenariat doit être ouvert avec les pays qui sont frappés par le Sahel, mais aussi avec l'extérieur. Et l'extérieur, il est indéniable de choisir des partenaires qui répondent aux défis de manière objective.
Sir Makosso, un commentaire à cette question. Quel partenaire voyez-vous pour le Mali face aux défis sécuritaires ?
Alors, je vais être un peu moins nuancé que le docteur Koïna pour dire une chose, c'est que le Mali a besoin aujourd'hui de Wagner pour assurer une partie de sa sécurité par rapport à la situation actuelle. Ça, c'est la première chose. Et par le biais de Wagner, nous avons donc la Russie. Et en même temps, cette coopération internationale n'est pas suffisante parce que la Russie, aujourd'hui, elle-même, a du mal aussi avec la communauté internationale. Toujours est-il, c'est que par rapport à la crise au niveau local, la nouvelle alliance que nous connaissons désormais, hein, donc l'alliance des États du Sahel, est quand même un pont important dans le cadre de cette préconisation sécuritaire pour le Mali. Aujourd'hui, le Mali sait qu'il n'est plus tout seul. Il y a au moins deux pays. Si l'Algérie et la Mauritanie jouent les troubles faits, mais au moins il y a deux pays, le Niger et le Burkina Faso, qui sont prêts à l'accompagner par rapport à la lutte contre le djihadisme. Mais toujours est-il que le Mali ne peut pas rester que dans le Sahel. Il faut sortir du Sahel. La Russie, aujourd'hui, n'est pas suffisante. Il faut aller voir un peu ailleurs. Et je pense que par le biais de la Russie, le Mali peut aujourd'hui pénétrer le BRICS, ce qui lui permettrait, M. Oula l'a évoqué tout à l'heure, donc tous ces pays émergents qui arrivent comme des futures grandes puissances, l'Inde, que ce soit le Brésil et autres, pourront désormais être aux côtés du Mali au cas où les autorités verront l'intérêt nécessaire d'avoir cette coopération internationale. Mais toujours est-il, il est important pour le Mali aujourd'hui d'avoir un jeu un peu plus clair par rapport à l'Occident, parce qu'il ne faut pas juste cantonner les relations du Mali avec les pays occidentaux que par le biais de la MINUSMA ou encore des différentes forces qui étaient là. Bien avant, il y a quand même eu des militaires, le docteur Koïna le disait tout à l'heure, qui ont été formés dans les écoles militaires occidentales. Donc il y a ces hommes-là aussi sont peut-être en attente. Demain, nous sommes dans des pays où il y a quand même une certaine instabilité. Si demain, les choses changent au Mali, qu'on a encore, ce que je ne souhaite pas, une transition militaire, et ceux qui arriveront iront chercher d'autres alliés. Donc, ce qui est quand même important aujourd'hui, et ce qui est sûr, ce qui pourra arriver demain après à Assimi Goïta, pourront d'abord s'appuyer sur cette force endogène qui est en train de se créer avec cette union, et après aller voir chacun, en fonction des acquaintances qu'ils ont avec les puissances extérieures qui pourront accompagner le pays pour assurer sa sécurité.
En quelques mots, quel enseignement tirer de cette tournure des relations entre les autorités maliennes et la MINUSMA? En quelques mots, docteur Koïna.
En fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la MINUSMA, malheureusement, n'a pas, en fait, les dirigeants occidentaux n'ont pas assez écouté les dirigeants sahéliens. Et c'est cela qui a amené tout cela, en fait, en été. C'était la même chose avec les Français. Et donc, il serait important, en fait, que dans les partenariats, en fait, c'est que les Occidentaux essaient un peu de prêter une attention particulière aux besoins des Africains. Parce que à un moment donné, si on essaie un peu de seulement d'imposer ce qu'on pense, ça marche plus, en fait. C'est la génération aujourd'hui un peu veut décider de son avenir et pas un peu de jouer à des jeux qui sont des années 60, quoi.
Prêter attention aux besoins des pays en crise. Monsieur Oula, un dernier mot, quelques mots, s'il vous plaît.
Ok, un dernier mot, je voulais dire à mon ami, l'autre là, le troisième débatteur là, mon troisième co-débatteur là, je voulais
dire Sir tout simplement Makoso. Que.
Voilà, monsieur Makoso, voilà, merci bien. Je voulais lui dire tout simplement que aujourd'hui, le Mali n'est pas forcément basculé dans le camp russe, pas forcément, pas du tout. C'est une alliance qui était là depuis très longtemps. C'est une coopération qui est là depuis très longtemps. On a essayé de renouer ça seulement. Et aujourd'hui, les Maliens ont besoin du concret. Quand on a de l'argent, on a besoin de l'argent, de l'armement, alors des équipements. Le pays qui est le plus disposé ou disponible à offrir ou bien à nous vendre
de l'armement,
alors ce pays serait fortement le bienvenu. Aujourd'hui, c'est la Russie qui fait ce jeu-là.
Merci. Merci, monsieur Oula. Merci à vous, Paul Oula, analyste sécuritaire et politique au Mali. Sir Makoso, consultant en géopolitique. Et docteur Koïna Alpha Aladi, géopolitologue et expert des groupes extrémistes au Sahel. C'est la fin de ce débat. Washington Forum, Alexandrine Poin-Lognon à la présentation. Merci à vous tous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires et sur le continent. Washington Forum, c'est tous les jeudis à 19h temps universel sur VO Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche. À très bientôt.